C'est maintenant le temps de la prédication. Et nous parcourons en ce moment la lettre que Paul a envoyée à Éphèse, aux chrétiens de la ville d'Éphèse. Et le titre de la série, c'est l'Église de Dieu. En fait, voilà, l'Église de Dieu. On s'est dit qu'en parcourant cette lettre, on trouvera la question, la réponse, les réponses à au moins trois questions. D'où vient l'Église? À quoi ressemble-t-elle? Et comment est-ce qu'elle vit? Okay. D'où vient l'Église? À quoi ressemble-t-elle? Et comment est-ce qu'elle vit? On a vu dans le chapitre 1 que l'Église est bénie en Christ. Vous vous souvenez, chapitre 1, l'Église est bénie en Christ. Dans le chapitre 2, qu'on a commencé la semaine dernière, on a vu avec Arnaud que l'Église est sauvée en Christ. Okay, vous voyez, tout est en Christ. L'Église est bénie en Christ, l'Église est sauvée en Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir que l'Église est unie en Christ. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Éphésiens chapitre 2. Et on va lire les versets 11 à 22. Éphésiens chapitre 2, les versets 11 à 22. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est la parole de Dieu. Priez avec moi, s'il vous plaît. Tendre Père Céleste, nous sommes tellement heureux de pouvoir ouvrir ta parole pour t'entendre nous parler. Notre prière maintenant, Seigneur, c'est que cette parole trouve une terre fertile en nous, que par ton esprit, Seigneur, tu nous révèles les mystères cachés dans ta parole et que cette parole, plus que de nous rendre intelligents, plus que de nous amener à la connaissance, transforme nos cœurs, nous montre l'union que tu as établie entre nous et Dieu et la réconciliation que tu fais entre les hommes désormais. Et que, Seigneur, lisons ce texte-ci, que nous apprenions à être des frères et des sœurs, à être une église bénie, bénie en Dieu. Et que nous apprenions, Seigneur, à vivre consciemment que nous sommes le temple de Dieu et que nous devons construire le temple de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Avez-vous déjà été étranger? Vous êtes-vous déjà senti étranger quelque part? Je veux dire, vous arrivez quelque part et vous sentez très clairement que vous êtes étranger. Ou alors on vous le fait savoir par le mépris ou l'indifférence qu'on peut vous afficher. Ou alors, étranger souvent par la langue. J'étais en Colombie avec Grace et je peux vous dire que je me suis senti étranger. Je ne parle pas du tout espagnol et elle parlait très couramment. Et chaque fois qu'il fallait poser une question, je me mettais derrière elle. Et quand quelqu'un me parlait, je disais, il faut parler à ma femme. J'étais complètement étranger. Je ne comprenais absolument rien à ce qu'il se disait. étrangers souvent par la culture. On arrive en France. Et arrivant directement de mon Cameroun natal, quand j'ai dû manger le fromage qui pue pour la première fois, je me suis senti distant par rapport à eux. Moi, j'aime le ndolé. Et je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, je me suis senti étranger. Étranger lorsque on doit aller renouveler un papier qui nous donne le droit d'être là. On peut se sentir étranger. Et des fois, le sentiment d'être étranger, l'idée d'être étranger ne reste pas virtuelle. Des fois, ça devient physique, visible. Et je ne sais pas si... Vas-y, un peu plus. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce mur-ci. C'est le mur de Calais. C'est un mur qui est construit sur 1 kilomètre. 2 700 000 euros de dépenses. 600 policiers en dessous pour empêcher les migrants d'aller vers les Anglais en Angleterre. Étranger, un mur qui sépare, comme la langue, comme la culture. Et un autre mur, un peu plus fameux cette fois-ci, le mur de Berlin, exactement, construit dans une seule nuit pour séparer la RFD, la RDA, République fédérale d'Allemagne, de la République démocratique d'Allemagne, pour séparer. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les familles étaient séparées, ne pouvaient plus se parler. Et maintenant, un autre mur, qui nous concerne dans ce texte-ci différemment. C'est le mur de la séparation. Il est construit par le roi Hérode dans le temple de Jérusalem. Il vise à séparer les païens et les juifs, les incirconcis des circoncis. La structure du temple est très remarquable. Et il y a un parvis pour les prêtres qui sont en état de pureté. Eux, ils sont proches de l'endroit du lieu saint, l'endroit où Dieu habite. Ensuite, il faut descendre quelques marches pour arriver au parvis des hommes et des enfants garçons. Vous voyez ? Et là encore, il y a une sorte de séparation. Vous voyez, non seulement déjà pour entrer dans le lieu saint, il y a un voile, mais encore plus loin, il y a les prêtres. Encore plus loin, il y a les hommes. Et il faut descendre encore plusieurs marches pour trouver le parvis des femmes. Vous voyez, séparation, les murs. Et il faut descendre encore beaucoup de marches pour arriver maintenant au mur de séparation. Le mur de séparation, c'est ce mur-ci. Je ne sais pas si tout le monde arrive à voir. C'est ce mur-ci. Et en fait, ce mur, comme on a dit, il vise à séparer les païens des juifs. Il vise à les empêcher d'approcher de quoi ? De la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu était dans le sang des saints. Et plus, si on était païen, on devait être très, très, très loin, exclu de la présence de Dieu. Et en fait, on a retrouvé sur ce mur-là, on a retrouvé, il semble que tous les 5 mètres, il y avait cette phrase ici. Personne d'une autre nation ne doit pénétrer l'enceinte autour du temple. Et quiconque se fera prendre ne s'en prendra qu'à lui-même pour la mort qui s'en suivra. Les païens, celui qui n'était pas juif, s'il tentait de pénétrer le temple, d'entrer dans le temple, il allait mourir. Je parle de mur parce que c'est de ça que parle notre texte. Vous avez vu le plan tout à l'heure. 3 points. Premièrement, il y a un mur. On voit ça dans les versets 11 à 12. Ensuite, il y a un pont. On va voir dans les versets 13 à 18. Et après, il y a une église, un peuple, dans les versets 19 à 22. Le mur. Voilà, le mur. On sait, un mur divise toujours 2 groupes de personnes. Et dans notre contexte, il s'agit des païens et des juifs, des circoncis et des incirconcis. À l'époque où Paul écrit ce texte-ci, en fait, d'un point de vue spirituel, religion, il n'y a que 2 groupes. Soit on est juif, soit alors on est païen. Soit on est circoncis, soit alors on est incirconcis. Et vous vous souvenez sûrement que l'église d'Éphèse, ceux à qui l'apôtre Paul écrit, la plupart sont des chrétiens d'origine païenne, un peu comme chacun de nous ici ce matin. Et donc en réalité, ce texte-ci a une valeur pertinente pour chacun de nous. Parce que ce texte parle de notre réalité à nous, puisque nous n'étions pas juifs. Si on était là à cette époque-là, on aurait été loin, loin de la présence de Dieu, en dehors du temple. Le mur est physique, mais le symbole derrière de la séparation, c'est la circoncision. Circoncis et incirconcis. Vous avez vu, hein, on martèle ça au verset 11. Appelé incirconcis par ceux qui sont circoncis et qui le sont par la main de l'homme, dans la chair. La circoncision, c'était le symbole de l'appartenance à Dieu. Un seul mot est tellement d'impact. Soit c'est Dieu qui donne la circoncision déterminer l'appartenance de son peuple. Je veux dire que la circoncision était un peu comme une alliance qu'on peut porter au doigt. Moi, cette alliance aussi dit à tout le monde que j'appartiens à quelqu'un. Et donc la circoncision était exactement cela. Une personne circoncise appartenait à Dieu. Et une personne non circoncise n'appartenait pas du tout à Dieu. Maintenant, on peut se demander, et à juste titre. Et donc, si c'est Dieu qui donne la circoncision comme symbole de l'appartenance, est-ce que Dieu était partisan de la séparation? Absolument pas. En réalité, lorsque Dieu parle à Abraham et qu'il lui dit « Tu seras béni en toi, tu seras béni et toutes les nations seront bénies en toi. » En réalité, ce qu'il a en tête, c'est que le peuple d'Israël était censé être la lumière pour les autres nations. Ils étaient, étant le peuple qui appartient à Dieu, ils étaient censés montrer à toutes les autres nations quelle est la gloire de Dieu. C'est exactement ce que nous sommes censés faire en tant qu'Église. C'est exactement ce que nous voulons faire en tant qu'Église qui s'implante dans le nord de Shell. Nous voulons être une Église qui montre soit qu'on est seul dans la vie de tous les jours ou alors lorsqu'on se réunit le dimanche matin ou en semaine. On veut être une Église qui montre aux autres la gloire de la grâce que nous avons eue en Jésus-Christ. Seulement, Israël va perdre de vue sa vocation et sa mission. Israël va prendre ses privilèges comme étant des avantages personnels et ils vont négliger d'évangéliser les nations. Au contraire, ils vont mépriser les nations. Écoutez quelques mots de ce que écrit un pasteur écossais. Il s'appelle William Barclay. Il dit, les Juifs éprouvaient un profond... Écoutez bien, vous allez voir la vraie séparation, la profonde séparation qu'il y a. Il dit, les Juifs éprouvaient un profond dédain pour les païens. D'après eux, les païens avaient été créés par Dieu pour alimenter le feu de l'enfer. Il n'était même pas permis à un Juif de venir en aide à une femme païenne au moment de son accouchement, car c'eût été favoriser la venue au monde d'un autre païen. Vous voyez ? Lorsqu'un garçon juif épousait une païenne ou qu'une fille juive épousait un garçon païen, on portait le deuil du garçon ou de la fille israélite. Un tel contact avec un païen était assimilé à la mort. Vous voyez l'épaisseur du mur? Vous voyez la profondeur de la séparation? Frères et sœurs, il y a des choses que la Bible nous encourage à oublier. Souvent, le mal qu'on nous a fait, par exemple. Mais il y a des choses qu'elle nous encourage à garder en mémoire, parce que c'est un bon moyen de chérir la grâce que Dieu nous a faite. Et donc, chaque membre de l'église d'Éphèse doit se souvenir de ce qui se trouve au verset 12. Chaque personne dans cette église, de l'église du refuge, doit se souvenir de ce qu'il y a au verset 12. Regardez ce qu'ils étaient autrefois. Et donc, ce que nous étions autrefois. Il dit, vous étiez autrefois sans Christ. On a étudié au chapitre 1. Et c'est sûrement facile maintenant d'imaginer le drame que ça peut être pour quelqu'un de vivre sans Jésus. On a vu que en Christ, et Yann l'a répété tout à l'heure, en Christ, Dieu a donné toutes les bénédictions qu'il peut donner à un homme. Et il n'a pas donné un tout petit peu. Il s'est donné selon la richesse de sa grâce. Et donc, tout ce qu'il faut pour le salut et pour la bénédiction d'un homme a été donné en Christ. Et donc, vous comprenez que si vous n'êtes pas en Christ, alors vous êtes en dehors du salut. Il y a une condamnation qui pèse sur vous. Vous êtes en dehors des bénédictions. Ils étaient privés du droit de cité en Israël. Les païens n'étaient pas censés vivre au milieu des juifs. Et ceux qui étaient tolérés parmi les juifs étaient considérés comme impurs. Ils ne s'invitaient pas à manger. Ils n'avaient aucun contact avec les païens. Ils étaient étrangers aux alliances de la promesse. Parce que les promesses avaient été faites à Israël. Ils étaient sans espérance. Il y a cette phrase qu'on dit souvent. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a la vie. Ah. Avez-vous de l'espérance? Quel est votre plus grand espoir? Manger un bon repas à midi? Ou alors vivre dans la gloire de notre Seigneur? Ils étaient sans Dieu dans ce monde. Alors, je pense que là, c'est choquant de dire « Oh, sans Dieu dans ce monde ». Ceux qui ont été ici à l'étude biblique, quand on a étudié Actes 19, se souviennent que non, les Éphésiens ne manquaient pas de Dieu. Ils en avaient plein. Diane, par exemple. L'idée, c'est qu'ils ne connaissaient pas le vrai Dieu de la Bible. Et donc, en fait, d'un point de vue spirituel, le mur est l'image de notre péché. Le mur est l'image de la rébellion des hommes contre Dieu. Dieu est saint, et donc d'un côté il y a Dieu, et de l'autre côté il y a tous les hommes pécheurs. Et aucun homme pécheur ne peut venir à Dieu. Ces 5 points de misère sont exactement la condition de toute personne dans cette église. Ceux qui sont nés de nouveau, qui marchent avec Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tout ça. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne croient pas encore en Jésus, ou qui croient mais qui ne marchent pas selon sa volonté, sont ça. Et l'apôtre Paul dit, souvenez-vous que vous étiez ça. Pourquoi souvenez-vous? Souvenez-vous parce que quand on oublie, si on oublie qu'on était sans Christ, rejeté d'Israël, étranger aux alliances, sans espérance, sans Dieu dans ce monde, quand on oublie ça, on devient orgueilleux, on devient exigeant envers les autres, on se croit supérieur, on pense mériter les faveurs de Dieu. Et lorsqu'on s'en souvient, on est humble, on est compatissant, on pense à ceux qui sont ça et on veut leur apporter le glorieux, le beau message de l'évangile. Le mur entre les païens et les juifs, ce mur dont on parle ici, n'est en réalité qu'une image, un extrait des fractures qui existent entre les hommes. Les fractures sont différentes, mais la racine est exactement la même. Je veux dire par là qu'ici, on parle d'une séparation entre les juifs et les non-juifs. Mais en réalité, regardez notre société. Regardez comment elle est divisée. Regardez comment elle est fractionnée en 1000 morceaux. C'est des fractures qui sont différentes de celles qu'on voit dans notre texte ici. Mais en réalité, la racine de ces fractures est exactement la même. Ce que je veux dire, c'est que la racine de ces fractures, c'est le péché. Le péché qui agit dans nos cœurs. Je veux dire que la colère des hommes, le péché des hommes a toujours produit des séparations. Et donc les tensions entre les pays, les tensions entre les origines, les tensions entre les races, les tensions même entre les hommes et les femmes, les tensions entre un père et sa fille, entre une mère et son fils, la même racine, le péché qui sépare. On peut rendre hommage parce qu'il y a des hommes qui se sont levés et qui ont dédié leur vie à la réconciliation. On peut penser à plusieurs, Martin Luther King, Nelson Mandela, John Lennon. Vous connaissez? Un peu? C'est? Beatles, exactement, Beatles. Donc, John Lennon. Donc, il a, à un moment donné, il était très engagé pour l'intégration et la justice sociale. Et donc, je veux dire que, il y a sûrement des gens qui se sont levés pour faire cela. Et je pense même qu'en réalité, les autorités, les gouvernements dépensent beaucoup d'argent pour ramener la paix dans le monde. Dépensent beaucoup d'argent pour organiser des réunions, des débats à l'Assemblée nationale pour réconcilier les hommes et les femmes. C'est-à-dire pour, à un moment donné, établir le devoir conjugal et à un moment donné, supprimer le devoir conjugal. Vous voyez, il y a une sorte de tâtonnement. Je ne donne pas d'avis par rapport à ça, et même si j'en ai un, évidemment. Il y a une sorte de tâtonnement parce qu'on cherche comment réconcilier les hommes et les femmes. Ceux qui sont mariés ici peuvent le voir, vivre, voir la tension qu'il peut y avoir, même avec une personne qu'on aime. La racine est là. Elle est profonde. Il y a une aspiration profonde à la paix, un désir de réconciliation. Le monde soupire après cela. On veut un monde uni, mais malheureusement, aucune action menée par les hommes n'a encore réussi à réconcilier les hommes. Pourquoi? Parce que le matériel que nous avons n'est pas le bon. On n'a pas les bons outils. Et pire encore, on n'a pas le bon cœur pour cela. Combien de fois je me lève le matin et dans ma prière, je dis « Seigneur, j'aimerais avoir une journée clean au niveau de mes relations. J'aimerais pouvoir aimer mon prochain comme moi-même. J'aimerais être patient et tolérant. J'aimerais pouvoir chérir ma femme comme elle le mérite. J'aimerais regarder mes enfants et être patient vis-à-vis de leurs erreurs. J'aimerais pouvoir, dans la rue, ne pas klaxonner à cette personne qui me coupe, qui me fait une queue de poisson. Et le soir, quand je fais les comptes, ah là là, impossible. Pourquoi? La volonté y est. Est-ce que vous ne voulez pas d'un monde uni, d'une famille unie? La volonté y est, l'ambition y est, mais on n'a pas le bon matériel. Et pire encore, on n'a pas le bon cœur. Je pense que les traitements et les solutions ne fonctionnent pas parce que le diagnostic n'est pas bon. Alors, et donc maintenant je regarde Bénédicte. Et est-ce qu'on peut soigner une migraine en amputant une jambe? Est-ce que c'est comme ça qu'on soigne une migraine? Non. Donc, si on n'a pas le bon diagnostic, le traitement ne sera pas le bon. Les conférences internationales ne vont pas réunir les gens. Les conseillers matrimoniaux vont sûrement aider un petit peu, mais n'arriveront jamais à apporter une vraie réconciliation, une vraie paix, une vraie joie dans les couples. Les gouvernements ne réussiront jamais à réconcilier les différentes cultures dans le pays. Pourquoi? Parce que la racine est profonde. C'est la rupture des hommes avec Dieu qui crée la rupture des hommes entre eux. Et donc, s'il faut réconcilier les hommes entre eux, il faut d'abord les réconcilier avec Dieu. Chose qu'aucun homme ne peut faire. Chose qu'aucun sommet international ne peut faire. Chose que, selon Paul, dans ce texte, Jésus seul l'a fait en construisant le pont. C'est ce qu'on voit au deuxième point, dans les versets 13 à 18. Il y a, dans cette section-ci, on voit que la paix arrive. Il est question de la paix au moins trois fois. Au verset 14, il est notre paix. Au verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. À vous qui étiez loin, il s'adresse aux païens et à vous qui étiez proches, il s'adresse aux juifs. Il est en train de dire que finalement, juifs comme païens, en réalité, tout l'univers, puisque tous les hommes ont été séparés de Dieu, alors tous les hommes ont besoin d'être réconciliés avec Dieu d'abord. En fait, c'est presque, il me semble même que c'est peut-être aussi pour ça que l'apôtre Paul dit précédemment, souvenez-vous. Parce que chaque fois qu'on a un petit problème avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut essayer de trouver une solution très rapidement. On va organiser une assise, on va, etc. Et on ne se souvient pas de ce que Jésus a fait d'abord pour nous réconcilier à Dieu. C'est ça, en réalité, qui aide à réconcilier les hommes entre les hommes. La réconciliation commence verticalement avec Dieu avant d'être horizontale. Dans les versets 13 à 18, il y a un double pont qui se construit et qui se construit pour réconcilier les hommes avec Dieu et ensuite pour les réconcilier entre eux. Et c'est ce qu'on voit. On dit que l'apôtre Paul dit que c'est par la croix du Christ. On peut se poser deux questions. Qu'est-ce que le Christ a fait et comment il a fait pour nous réconcilier? La première chose, qu'est-ce que Jésus a fait pour construire le pont? La réponse est au verset 14. Il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Jésus est venu dans ce monde, il a marché parmi les hommes, circoncis et incirconcis. Il accueillait tout le monde. Il était le temple de Dieu ambulant. En Jésus, les gens avaient accès à Dieu directement. Pas besoin d'aller au temple. Les païens qui ne pouvaient pas arriver jusque dans la proximité de Dieu, au contact de Jésus, étaient directement en contact avec Dieu lui-même. Il va même parler de la destruction de son corps plus tard. La destruction de son corps qui indiquait quoi? La destruction du temple. Toujours au verset 14, il est dit que Jésus a renversé le mur de séparation. Le mur dont je vous ai parlé tout à l'heure, le mur qui interdisait aux païens d'entrer dans la présence de Dieu. C'est assez surprenant parce que vous savez bien que Jésus est mort dans les années 30. Mais en réalité, le mur a été détruit au moment où le temple a été détruit, dans les années 70. Donc, Paul écrit cette lettre ici dans les années 60-62. Lorsque Paul écrit cette lettre ici, le temple est encore là, le mur est encore là. Mais l'apôtre Paul peut déjà dire que ce mur-là, il est encore là, mais son symbole est détruit. Il n'a plus de pertinence. Quelqu'un a d'ailleurs écrit, en parlant du mur, il tenait encore debout, mais il était déjà obsolète, dépassé quant à sa signification spirituelle. Le signe était encore là, mais la chose signifiée était détruite. En gros, même si le mur du temple était encore là, il ne barrait plus du tout la route à l'accès de Dieu. Comment Jésus a construit le pont? Dans les versets 15 et 16, il est dit que c'est dans sa mort. Jésus a annulé la loi. Il a créé un seul homme nouveau et l'a réconcilié avec Dieu. Jésus a changé le signe d'appartenance à Dieu, le moyen par lequel on appartient à Dieu. À cette époque, il fallait être circoncis pour appartenir à Dieu. Et désormais, par la mort de Jésus, plus besoin d'être circoncis, plus besoin de respecter les fêtes sacrées juives, plus besoin de faire les sacrifices d'animaux. Ce sont ces règles-là qui avaient construit le mur. Désormais, parce que Jésus est mort, la loi cérémonielle est accomplie. Nous pouvons venir à Dieu. Nous avons accès à Dieu. Quiconque veut venir à Dieu peut venir à Dieu. Et ce n'est pas un accès temporaire, c'est un accès permanent. Jésus est allé régler le problème à la racine profonde. Il a réglé la question du péché par la mort, par sa mort. Les hommes qui sont réconciliés avec Dieu, c'est-à-dire la réconciliation verticale, peuvent désormais être réconciliés les uns vis-à-vis des autres. Frères et sœurs, c'est le moment où ça devient engageant pour chacun de nous. Je veux dire que je crois que le gouvernement fait des efforts pour que les riches vivent avec les pauvres, pour que les noirs vivent avec les blancs, pour que les gens éduqués vivent avec les gens pas assez éduqués. Je suis convaincu que le gouvernement fait des efforts pour cela. Mais on peut remarquer que ce n'est pas bien réussi. À mon avis, si le gouvernement devrait ouvrir la Bible. Le gouvernement devrait se renseigner, regarder l'Église et voir toutes ces personnes d'âges différents, de cultures différentes, d'arrière-plans différents, de niveaux sociaux différents. Je ne sais pas combien de nationalités nous sommes ici. Cameroun, Pakistan, Madagascar, Tchad, Haïti, Congo, France, et on peut aller plus loin encore, Portugal, on peut aller plus loin encore. Mais regardez l'amour qui nous unit. Le gouvernement, les gens de l'extérieur devraient, chaque fois qu'ils nous regardent, se dire, il y a quelque chose de différent chez ces gens-là. Est-ce que c'est parce que nous sommes très compétents et qu'on arrive à faire, à nous unir entre nous? Absolument pas. C'est parce que le Christ agit en nous par son esprit, transforme nos cœurs, nous rappelle ce que nous étions, nous rend humbles et nous appelle à nous accueillir comme lui-même nous a accueillis. De telle sorte que chaque fois qu'on crée une barrière les uns vis-à-vis des autres, peut-être par la rancune, peut-être parce qu'on regarde cette personne et on se dit « Oula, c'est bizarre, il ne mange pas ce que je mange. » Peut-être par la culture. Oh, drôle de façon de tenir les couverts. Chaque fois qu'on essaie de regarder quelqu'un avec dédain, en mettant un mur entre la personne et nous, nous sommes en train de mépriser le pont que le Christ a construit. Mais au contraire, qu'est-ce que nous devons faire, frères et sœurs? Nous unir davantage, nous aimer davantage, être la vitrine pour le monde de ce que le Seigneur fait, être l'Église unie que le Seigneur est en train de construire. C'est Jésus qui donne son sang, son corps et sa vie pour que nous ayons non seulement la paix, mais aussi que nous soyons en paix. Le châtiment qui donne la paix, qui produit la paix, est tombé sur lui. Il a pris notre souffrance à la croix. Et désormais, nous sommes en paix non seulement avec Dieu, mais nous pouvons être en paix les uns vis-à-vis des autres. Frères et sœurs, c'est le moment de réfléchir à la paix avec Dieu. Si votre conscience est souvent chargée par la culpabilité, si vous ne vivez et il n'y a aucune certitude de votre réconciliation avec Dieu, vous ne savez pas du tout quel sera votre sort à votre mort ou au retour de Jésus. Si vous vous sentez troublé, alors sachez que Jésus est notre paix. Venez à Jésus et vous aurez cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que le monde ne connaît pas, cette paix que le monde cherche et ne trouve pas. Venez à Jésus, vous aurez cette paix-là. Aucune religion ne la donne. Et même les bonnes attitudes qu'on fait, c'est pas la bonne morale, ce n'est pas ça qui donne la paix. La paix est acquise uniquement par le sacrifice du Christ. Et le dernier point, c'est l'Église unie. On voit ça dans les versets 19 à 22, et je vais aller assez vite sur cette partie-ci. Et il y a trois images que l'apôtre Paul prend ici pour parler de l'Église qui est désormais unie. Premièrement, au verset 19a, il va parler de la citoyenneté. Il dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. » Frère, quel privilège! Quel privilège! On était étrangers, sans rien, on n'avait absolument rien. Et désormais, nous sommes concitoyens des saints. Et donc, si vous n'êtes pas ça, vous pouvez l'être. Ensuite, verset 19, sur la partie B, il dit, « Gens de la maison de Dieu, nous sommes de la famille de Dieu. » Il n'y a pas plus grand privilège. Il n'y a absolument pas plus grand privilège d'être de la famille de Dieu, être appelé, marqué du sceau de Dieu, on l'a vu au chapitre 1, être appelé, je pense que spirituellement, si on pouvait lire notre acte de naissance, il y a sûrement Gaël Wagoum, enfin non, il y a sûrement Gaël, mon prénom, et mon nom, ça doit être chrétien. Et c'est le nom, le même nom qui est donné à tous les enfants de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Et ensuite, dans les versets 20 à 22, il prend une image maintenant qui va parler à deux amis ici qui sont dans le bâtiment. Il dit qu'il prend l'image d'un édifice, d'une construction. Il dit que nous sommes l'édifice du Seigneur. Nous avons été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Frères et sœurs, avant
On était étrangers. Maintenant, nous sommes le royaume sur lequel Dieu règne, la famille qu'il chérit et le temple dans lequel il demeure. Avant, on n'avait même pas le droit de s'approcher de sa présence. Et désormais, il habite en nous. Je termine avec ceci. Dieu est en train de construire quelque chose dans le monde de façon générale et de façon localisée. Il construit une église ici à Chelles par cette implantation. L'église du refuge évangélique, baptiste du refuge. Il ne construit pas un bâtiment, ni une pierre, ni un club, mais une maison spirituelle. Il prend des hommes et des femmes différents les uns des autres, avec des passés différents, avec des caractères différents, avec des histoires différentes. Et il les assemble pour former un peuple dans lequel il habite. Et dans cette construction, chacun est une pierre différente aussi. Imparfaite, travaillée, ajustée, mais une pierre toute seule ne peut pas être la maison de Dieu. Nous devons tous participer à cet édifice, à la construction de cette maison. Et donc, la bonne question, c'est comment est-ce que tu te vois dans l'église en tant que pierre dans ce contexte d'implantation où les besoins sont nombreux? On a le choix d'être spectateur et donc d'arriver là et d'être un peu distant. On veut pas trop, on regarde un petit peu à distance, on veut pas trop s'engager, on regarde un peu. On a le choix d'être ça, et c'est dommage. On a le choix aussi d'être consommateur, de venir, de profiter, d'être là, de profiter de tout ce qui est fait. Et vous êtes bienvenus pour ça. Mais c'est dommage, parce que vous n'allez pas plus loin. Mais on a aussi le choix d'être acteur, d'être une pierre vivante. S'engager à la construction de la maison de Dieu par la prière, par la générosité, par le service, par l'amour et le temps qu'on accorde à une personne de l'Église qui en a besoin. Et je serai disponible à la fin du culte et même plus tard, si quelqu'un voudrait s'engager un peu plus, si vous voulez vous engager un peu plus et que vous ne savez pas comment faire, venez me voir, écrivez-moi, appelez-moi et j'aurai toujours une idée de comment vous pouvez servir. Maintenant, frères et sœurs, où êtes-vous par rapport au pont? Est-ce que vous êtes de l'autre côté du pont? Ou alors, est-ce que vous avez traversé le pont pour être concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu? Si vous n'avez pas traversé le pont, vous êtes appelés à traverser le pont par Jésus. Venez à lui, confiez-lui votre vie et il vous emmènera dans la présence même de Dieu. Et si vous avez traversé le pont, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous partez, tant pis pour ceux qui sont derrière, qui sont de l'autre côté? Ou alors, vous vous dites, je veux dire la bonne nouvelle de la réconciliation à ceux qui sont encore de l'autre côté du pont. Peut-être que cette semaine, vous pouvez réfléchir à ça. À qui est-ce que vous pouvez parler de Jésus? Parler de cette réconciliation qui est possible. Frères et sœurs, souvenez-vous que vous étiez sans Christ, sans espérance, étranger, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est la parole du Seigneur.